Quartz livre, Jean-Marie Félix.
Bonjour Benoît Duteurtre.
Bonjour.
Vous avez récemment publié aux éditions Gallimard, dans la collection Blanche, le 4e volume d'un cycle autobiographique dont le titre a le mérite d'être explicite, « Ma vie extraordinaire ». Vous êtes aujourd'hui âgé de 61 ans, vous jetez un regard rétrospectif sur les 4 dernières décennies que vous avez traversées, entre la Normandie où vous êtes né, au Havre, les Vosges, votre refuge enchanté, Paris, où vous êtes installé depuis la vingtaine, et New York, une ville multiple où vous avez souvent séjourné. Dans la première partie de votre livre, vous évoquez 2 personnages qui ont illuminé votre enfance, un grand-oncle nommé Albert et sa seconde épouse, Rosemonde. L'une et l'autre se sont rencontrées dans le maquis pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de s'installer dans un vieux moulin situé dans les Vosges, une maison enchantée où vous avez passé toutes vos grandes vacances pendant l'enfance. Le couple extraordinaire que formaient Albert et Rosemonde semble avoir servi de matrice à votre personnalité en devenir. Dans la deuxième partie de votre livre, vous évoquez votre formation en musicologie, votre amour pour la musique légère et populaire, l'opérette en tête, votre entrée en écriture, votre éclectisme littéraire et votre activité de journaliste musical. Et dans ce livre estampillé roman, vous mélangez volontiers les genres. Au récit de votre parcours personnel, vous mêlez des réflexions sur notre monde et sur sa modernité, des portraits truculents, une liste des lieux aimés, des souvenirs et aussi une part entièrement fictive, c'est surprenant, sous la forme d'une dystopie qui plonge le lecteur à la fin du XXIe siècle. Alors, qu'y a-t-il, Benoît Duteurtre, à l'origine de ce livre ? Est-ce que c'était l'envie de faire un bilan de votre vie d'adulte ?
Oui, même si ça n'a pas été la première de mes idées, la première chose, je crois, effectivement, ça a été de rendre hommage, ou en tout cas d'évoquer, disons, cet enchantement qu'a été dans mon enfance, la découverte des Vosges, auprès de ce vieux couple de mon grand-oncle et ma grand-tante. J'avais évoqué dans plusieurs livres ces moments de ma vie, mais de façon un petit peu fugitive, au détour d'autres histoires. Et là, j'avais envie de vraiment raconter comment j'ai eu l'impression à 6, 7, 8 ans de découvrir le bonheur dans cette forêt, dans cette montagne, au bord de ces ruisseaux, auprès de ces deux vieux protecteurs, mon grand-oncle et ma grand-tante, avec ma petite sœur dont je tenais la main, qui était un peu plus jeune que moi et qui, avec moi, passait toutes ses vacances là-bas. Je voulais raconter cette histoire. Et puis, effectivement, ensuite, cherchant à prolonger aussi effectivement les livres autobiographiques qui ont précédé, je me suis dit, mais en fait, ce qui est quand même compliqué, parce que là avec les Vosges, je reviens à ma petite enfance, à l'apprentissage du bonheur, mais il y a une chose, au fond, dont j'ai jamais parlé dans ma vie, c'est la plus grosse partie de ma vie, c'est-à-dire de 20 ans à 60 ans. Je m'en suis inspiré dans des romans, mais je l'ai jamais raconté. Au fond, qu'est-ce qu'on fait pendant toutes ces années? Et vous avez vu qu'il y a un passage dans le livre où je me dis, oui, on peut revenir indéfiniment sur sa formation, son apprentissage, les choses qui nous ont fait devenir ce qu'on est. Mais après, on a l'impression d'avancer au milieu de 1000 événements, de brasser 1000 choses dont il ne reste presque rien. On ne fait qu'avancer un peu aveuglément. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette grande deuxième partie du livre que j'ai appelée 14 600 jours. C'est ma vie entre 20 et 60 ans. Je prétends évidemment pas tout raconter, mais j'ai essayé de retrouver quelques fils conducteurs, la logique de cette période centrale, si je peux dire, de ma vie.
Oui, vous écrivez quelque part dans ces pages que ces 4 décennies d'adultes ont été une longue traversée qui a suivi votre apprentissage et précédé votre vieillesse. À 61 ans...
Qui ne fait que commencer, a priori.
Oui, mais justement, vous avez le sentiment d'entrer déjà sur le territoire de la vieillesse, que vos belles années sont passées ?
Non, pas vraiment, parce que ma vie n'a pas tellement changé depuis que j'ai passé les 60 ans. Mais malgré tout, objectivement, c'est vrai, oui. Bah, après 60 ans, on entre dans quelque chose qui est... On vit une époque où tout le monde veut absolument être jeune. Tout le monde veut... Il faut... Même les gens très vieux, il faut dire qu'ils sont jeunes. Mais non, on est très jeune, puis on est moins jeune, puis on est adulte, puis... Après 60 ans, on entre dans quelque chose qui s'approche de la vieillesse, même si c'est pas la grande vieillesse, voilà. Et donc, en plus de ça, voilà, j'ai écrit le livre à 60 ans, donc j'imagine que ce qui vient après, voilà, si je réécris sur ma vie dans quelques années, ça commencera à être sur l'histoire de ma vieillesse. Mais en même temps, pour expliquer bien la structure du livre, donc il y avait cette première partie sur mon enfance dans les Vosges, la seconde partie sur l'âge adulte, et la troisième partie, c'est aussi un peu sur la vieillesse, puisque on y retrouve le personnage de ma tante Rosemonde, mais devenue une très vieille dame au Havre, et dont je raconte les dernières années jusqu'à sa mort. Donc le livre a vraiment trois parties, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse.
Oui, la vieillesse, c'est un âge que vous avez déjà célébré dans d'autres livres précédemment. Enfin, célébrer, c'est une manière de parler parce que c'est souvent une vieillesse douloureuse que vous racontez, notamment le départ de votre mère qui souffrait d'Alzheimer. Mais dites-nous, Benoît Dutertre, en quoi ce livre s'inscrit dans la continuité des trois autres volumes qui ont précédemment paru, Les pieds dans l'eau, L'été 76 et Livre pour adultes?
Parce que ce sont des livres dans lesquels, de façon tout à fait claire, explicite, je raconte des passages de ma vie le plus fidèlement possible. Je me suis inspiré, comme tout écrivain, souvent de mon existence, mais soit pour en faire des fictions, soit des semi-fictions. Il y a un mélange, comme on dit, de l'autofiction aujourd'hui, entre de la fantaisie et du réel. Là, je cherche pas du tout, sauf dans les passages qui sont ouvertement de la fiction, mais dans ce livre, je raconte très précisément, comme dans Les pieds dans l'eau, je raconte ce qu'a été mon enfance normande, ma découverte progressive des plaisirs de la mer et de la ville d'Étretat, etc. L'histoire de la famille Coty, tout ça, ce sont des épisodes très autobiographiques, même si je leur donne ce que j'appelle une structure romanesque, peut-être qu'on y reviendra. Mais dans l'été 76, c'est vraiment l'histoire de mon adolescence et de mes enchantements de lycéens découvrant l'art moderne, la littérature, l'amour, etc. C'est très très précis. Et de même, dans le livre pour adultes, il y a la plus grande partie du livre qui est effectivement consacrée notamment à la mort de ma mère, mais aussi à d'autres épisodes qui sont là encore très autobiographiques. Et je voulais combler justement en me disant, voilà, il manque les Vosges dans tout ça, et puis il manque le milieu de ma vie, ce que j'appelle l'âge adulte. Et c'est au fond le propos de ce livre, Ma vie extraordinaire, titre évidemment un peu ironique, puisque finalement c'est le récit d'une vie relativement ordinaire, même si aucune vie n'est ordinaire, mais dont j'essaie de trouver l'extraordinaire ou le romanesque.
Oui,
si
c'est aussi le récit de multiples vies extraordinaires, parce que vous évoquez tous ceux que vous avez rencontrés au cours de ces 40 dernières années. En effet, il y a la mention apposée sur la couverture du livre « Roman Benoît Dutertre ». Est-ce que c'est une mention que vous avez hésité à placer là, ou vous assumez complètement cette mention qui pourrait faire penser qu'il y a une part de fiction dans tout ça?
Dès l'instant où j'avais mis roman sur le précédent livre pour adultes, j'avais pas de raison de pas le mettre pour celui-là, parce que c'est à peu près le même genre de mélange. Secondo, je savais que ça allait encore faire débat. Ça a fait beaucoup débat pour le précédent. Ça m'avait même un petit peu valu, je crois, le prix de l'Académie française, où finalement, mon livre avait pas été considéré justement par certains comme suffisamment roman pour recevoir un prix du roman. Et je vois encore autour de moi, et dans les critiques, et y compris d'ailleurs dans les critiques les plus favorables au livre, certains qui disent « Oh, mais c'est pas un roman ». Parce que, en gros, soyons simples, il y a ceux qui considère que le roman, c'est, comme dirait l'autre, le roman-roman, c'est-à-dire une pure fiction, ou même si elle a plein d'inspirations qui ne sont pas forcément de la fiction. Et puis ceux qui, comme moi, considèrent que le roman, au fil du XXe siècle, est devenu la forme littéraire libre, subjective, par laquelle on peut raconter mille choses, et qui recourt, pourquoi pas, à l'autobiographie, pourquoi pas à l'essai, à l'histoire, à mille registres, mais dès l'instant où c'est composé avec une espèce d'ambition esthétique et artistique, pour moi, ça relève du roman. Mais en outre, alors là, je me référerai à mon regretté ami, que vous connaissez peut-être, l'écrivain Dominique Noguez, qui lui était assez rigoureux sur la définition du roman. Pour lui, un roman est supposé fiction, mais, ajoutait-il, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de fiction dans un récit pour que ça puisse devenir être considéré comme un roman. Or, en l'occurrence, dans ce livre, il y a quand même trois chapitres entiers qui relèvent de la pure fiction.
Mais il y a peut-être aussi du roman dans la mesure où c'est une réminiscence. Vous recomposez des souvenirs qui, de toute façon, ont justement une part fictive.
Exactement. Et je n'ai pas cherché d'ailleurs à faire une espèce de récit linéaire qui serait au strictement parlé une autobiographie. C'est vraiment une composition, non pas au sens scolaire, mais au sens, je dirais, pictural, une composition littéraire fondée principalement sur des souvenirs. Oui.
Et dans un chapitre consacré à votre œuvre littéraire, qui se trouve à peu près à la moitié du livre, vous insistez sur votre volonté d'écrire dans une langue claire, assez loin des sophistications stylistiques pour lesquelles on peut être tenté. C'est une volonté qui vous habite toujours aujourd'hui?
Ah, je dirais plus que jamais, parce que j'ai l'impression que dans le monde où nous vivons, je dirais le simple fait de posséder, de nourrir, d'entretenir, de cultiver une langue commune, simples, claires, qui disent bien les choses. C'est quelque chose de très, très précieux. Alors, c'est vrai que adolescent ou post-adolescent, je me lançais justement dans les grandes aventures de prose poétique. J'écrivais des choses qui correspondaient à ce culte qu'on pouvait avoir quand on s'intéressait à la littérature moderne de ce qu'on appelait l'écriture, hein, une recherche, toujours d'une création, d'une écriture singulière. Ça a été, au fond, mon point de départ. Et puis, toute ma vie d'écrivain a été plutôt, je dirais à l'inverse de certains autres peut-être, la tentative de reconquête d'une langue simple, commune, claire, qui n'en soit pas moins personnelle avec sa musicalité particulière. Mais effectivement, j'aime une forme de transparence, d'efficacité de la langue. Et je pense que la langue française, quand on se préoccupe de ça, est un instrument merveilleux qui peut nous amener à une forme de beauté de la langue, l'air de rien, quoi.
Dans ces pages, vous insistez aussi sur votre volonté de ne pas vous prendre au sérieux, ce qui ne vous empêche pas de porter un regard extrêmement critique, voire caustique sur la société contemporaine. Et ça, c'est sans doute une récurrence dans vos livres.
Oui, c'est un livre où il y a beaucoup d'auto-ironie. Déjà dans le titre, d'une certaine façon, je le disais, ma vie est extraordinaire. Mais je dois dire, ça m'a surpris parce que tout le monde n'a pas exactement compris ou voulu comprendre. Par exemple, quand je raconte ma vie d'écrivain, j'entends dire un ou deux critiques, « Oh oui, quand même, il est très vaniteux, il raconte son itinéraire, comme si c'était important, il nous parle du fait qu'il a reçu une carte postale de Kundera, ou je ne sais quoi, etc. » Si c'est vraiment ça qu'on a compris, c'est qu'on ne m'a pas compris. J'ai voulu, avec là encore une forme de distance et d'ironie, dans un des chapitres du livre, qui n'est qu'un des chapitres du livre, raconter ce que c'est que la vie d'un jeune écrivain essayant d'écrire des livres, de se faire entendre, de se faire connaître, évoluant dans un milieu avec des préoccupations, etc., des échecs. Et j'ai voulu raconter avec une espèce de simplicité et de franchise. Et effectivement, quand je raconte, par exemple, que je reçois cette carte de Kundera et une autre de Guy Debord après la parution de mon troisième roman, qui a été un échec mais absolument total, c'est pas pour citer des noms, faire du name dropping, comme on dit, c'est juste pour dire qu'est-ce que c'est important quand on est un jeune écrivain, qu'on se sent pas du tout connu, ni compris, ni lu, tout d'un coup, d'avoir comme ça quelques écrivains que vous admirez, ou artistes que vous admirez, ou hommes que vous admirez, qui vous envoient un petit mot, ça vous redonne du courage et ça vous fait continuer. Voilà, ce sont des choses comme ça.
Oui, quand on est un jeune écrivain, on est forcément en quête de reconnaissance, et cette reconnaissance, vous avez dû attendre l'âge de 41 ans pour l'obtenir avec le prix Médici. Le Voyage en France, un roman qui vous a propulsé finalement sous les feux de la scène littéraire.
Oui, enfin il y avait eu un premier petit épisode quelques années avant quand même, où je m'étais fait remarquer, si j'ose dire, comme polémiste, avec le livre Requiem pour une avant-garde, et aussi plusieurs romans d'ailleurs qui étaient un peu des satires de la modernité juste après, notamment Gaieté parisienne. Et là, tout d'un coup, j'avais quand même eu droit à l'étiquette du type qui met les pieds dans le plat, etc. Ça avait créé d'ailleurs des scandales de presse, notamment à propos de tout ce que j'écrivais sur Pierre Boulez et sur la musique contemporaine. Donc là, je m'étais fait une réputation de polémiste, mais qui me faisait connaître en même temps, qui me valait une espèce d'étiquette, parce qu'en France on adore les étiquettes, comme vous savez, tout d'un coup de nouveau réac ou je ne sais quelle catégorie dans laquelle je ne me reconnaissais pas vraiment. Mais enfin voilà, il y avait eu ça. Et le Médicis, ça m'a permis, oui, d'être un peu plus reconnu effectivement comme écrivain et comme romancier à partir de 2001.
Alors je vous propose maintenant, Benoît Duderte, de parler de la première partie qu'on trouve dans ce livre « Ma vie extraordinaire ». Vous y parlez beaucoup des Vosges, parce que si vous avez beaucoup roulé votre bosse à travers le monde, il y a un coin de pays qui reste pour vous un refuge, comme un port d'attache, ce sont les Vosges. C'est là que vous passez une bonne partie de votre vie. Et en ces temps d'exil urbain provoqué par la pandémie, de nombreux Parisiens ou habitants de grandes agglomérations se sont réfugiés à la campagne, du moins momentanément. Est-ce que ça a été une tentation de votre part de vous réfugier dans cette maison qui est pour vous comme un cocon ?
Alors cette maison, j'y passe même une grande partie de l'année habituellement, et ce pays, je m'y sens mieux que partout ailleurs, et je dirais peut-être plus chez moi que partout ailleurs. Et curieusement, quand la pandémie est arrivée l'an dernier, au moment du premier confinement, en fait, je suis pas parti là-bas. Parce que d'abord, je vis avec quelqu'un qui souffre normalement de l'asthme. Alors, on avait très peur de l'épidémie. Alors, on voulait pas passer par la gare, etc., prendre de risques. On savait pas. Donc, on s'est dit, bon, allez, on va suivre les consignes. Et en même temps, je dois dire que mon expérience du printemps dernier à Paris, dans un vrai, total et brutal confinement, ça a été quelque chose d'assez merveilleux. J'ai redécouvert Paris, les promenades, les quartiers, avec un vrai enchantement lié au silence, au calme, à la beauté de la ville, pur. Donc finalement, j'ai pas regretté. Maintenant, j'ai repris mes habitudes vosgiennes, mais voilà, je continue à partager ma vie entre la grande ville et la montagne la plus sauvage. C'est pour moi un équilibre absolument nécessaire.
À propos de ce lieu, vous écrivez « Ce coin de paradis où se conjuguent mon présent et mon passé », comme si ce lieu avait quelque chose de matriciel pour vous, qu'il était porteur de devenir, pas seulement de passé, mais aussi d'avenir.
Oui, en tout cas, ce que j'essaie de faire saisir dans la première partie du livre, combien cet enchantement vosgien a été déterminant pour moi. Pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai assimilé ce lieu à l'idée même du bonheur. Je pense que c'est lié en partie au fait que j'y suis allé très régulièrement et très jeune, et qu'il y a d'abord des choses très primaires, comme la façon dont s'inscrivent en vous des images, des bruits, des odeurs, des parfums. J'ai vraiment grandi avec ce parfum des sapins et des épicéas, de la grande cheminée de la maison, des sources qui s'écoulent partout autour, des torrents, cette lumière de la forêt. C'est quelque chose qui m'a constitué dans quelque chose qui est à la fois moi-même et déjà une forme d'imaginaire, parce que je crois que ça se mêlait beaucoup quand j'étais enfant avec les... J'évoque ça rapidement dans le livre, mais vous savez, il y avait des albums merveilleux pour les enfants qui s'appelaient les albums du Père Castor,
qui étaient
chez Flammarion. Mmh. Il y avait des très belles illustrations, c'était souvent des histoires d'animaux dans la nature, souvent par des illustrateurs d'ailleurs plutôt du milieu du XXe siècle. Il y avait notamment l'histoire de Mishka, le petit ourson en peluche qui va retourner dans la grande forêt. Il y avait une autre histoire qui s'appelle Les Bons Amis, avec des animaux l'hiver dans la neige. Et dans tous ces récits, il y avait des vieilles maisons en bois, des vieilles fermes perdues qui ressemblaient tellement à celles des Vosges qu'il y avait une confusion totale quand je grandissais entre le monde onirique et le monde des vacances où j'allais chaque année. Et voilà, tout ça s'est gravé en moi profondément et fait que je me sens naturellement bien là-bas. Oui, aujourd'hui encore, tout ça me porte d'une certaine façon. Tout ça me ramène. Parfois, j'ai l'impression, à l'essentiel. J'aime la nuit vosgienne, j'aime les étoiles dans le ciel, dans la montagne. Dès que j'arrive là-bas, je mets des grandes bottes et je descends au ruisseau au pied de la maison pour aller mettre les pieds dans l'eau au milieu des blocs de quartz. C'est quelque chose qui fait partie de moi, oui.
Et vous devenez lyrique d'ailleurs lorsque vous parlez, lorsque vous écrivez sur les Vosges. Et j'aimerais juste citer une phrase qu'on trouve quelque part dans cette première partie. J'ai cette chance, qui est un privilège, de conserver dans ma besace affective ces moments très doux et réconfortants, auxquels il est toujours possible de se rattacher. Ce sont des images, des bruits, des parfums, des sensations qui, pour la plupart, remontent aux vacances vosgiennes. Elles me permettent en un instant d'oublier mes angoisses existentielles et autres obsessions derrière lesquelles se cache la peur de la mort. Il y a quelque chose de presque proustien dans ces lignes, Benoît Dutertre. Cette importance de la réminiscence par l'odeur.
Ça comme un compliment.
Oui, ben vous pouvez.
Oui, c'est vrai. Par l'odeur. Et cette présence en nous de ces espèces de secrets qui ne sont pas seulement des souvenirs, mais je dis aussi, plus ou moins dans le même passage du livre, comment quand je ne me sens pas bien, quand je me sens angoissé, quand ça ne va pas, c'est une image des Vosges, comme ça, de mon enfance, d'une prairie sur la montagne où on est avec ma petite sœur et avec mon grand-oncle, que je vais chercher comme ça et qui me rassure, qui m'apaise, etc. C'est très, très compliqué tout ça, oui, ouais. Oui. Mais c'est vrai que ça passe notamment par les odeurs et les parfums, oui, si proustiens. Mais ce paradis de l'enfance, il était lié aussi au fait que c'était un monde à part. Parce que, évidemment, quand mes parents ont décidé, avec ma petite sœur, de nous envoyer chaque été chez notre grand-oncle et sa femme, ce vieux couple qui s'était connu dans la Résistance, parce que mes parents avaient beaucoup à faire, il y avait d'autres enfants plus petits, et ben, ils nous ont donné cette chance, ils n'ont peut-être pas mesuré eux-mêmes, mais d'avoir une autre vie que la vie ordinaire. Donc le Havre où je grandissais, et la famille, et l'école, et les petits frères et sœurs, c'est devenu la vie ordinaire. Et les Vosges, c'est devenu la vie extraordinaire. Mmh. Celle où on passait 2 mois chaque année dans une liberté totale, avec un vieux couple qui nous adorait, qui n'avait pas eu d'enfants, qui avait eux-mêmes une histoire extraordinaire. Donc voilà, il y a eu cette espèce de scission comme ça, entre la terre et le paradis, d'une certaine façon.
Une histoire extraordinaire, en effet, une histoire amoureuse, puisque c'est de là qu'il y avait 18 ans d'écart. Votre grand-oncle avait 18 ans de plus que Rosemonde, sa seconde épouse, se sont connus dans le maquis pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est ça. pas dans les Vosges, d'ailleurs, c'était en, oui, en Normandie. Mais lui avait déjà fait la Première Guerre mondiale, donc c'était un homme de la génération, effectivement, d'avant. Il était né en 1897, je crois. Il avait eu une première femme qu'il avait quittée, qu'il avait retrouvée. Enfin, c'était un peu compliqué. Et finalement, il a rencontré, effectivement, dans la résistance, dont il était vraiment un héros et un chef important dans le département de l'Eure. Il a rencontré cette jeune femme qu'il a sauvée de la Gestapo, elle ayant 20 et quelques années. Bon, déjà, c'est le début d'un roman ou de pas mal de films qu'on a vu d'ailleurs, voilà, la jeune fille qui sauve le résistant et qui tombe amoureux l'un de l'autre, c'est exactement ce qui leur est arrivé. À ça s'est ajouté le fait que non seulement c'était des grandes figures de la résistance, mais le fait que leur clandestinité a duré longtemps parce que lui-même, sa première femme, qui était aussi dans la résistance, a été déportée. Elle est morte en Allemagne, à Bergen-Belsen, mais sa disparition, c'était très compliqué à l'époque, n'a pu être officiellement établie que des années après. Donc, au lendemain de la guerre, jusqu'en 1955, ils ont vécu ensemble sans pouvoir se marier, ce qui, dans la partie très bourgeoise de ma famille, était plus ou moins bien vu, etc. Donc, voilà, ils ont continué leur vie un petit peu à part. Il y avait la différence d'âge, il y avait la guerre, il y avait ce mariage qui ne pouvait pas se faire. Et puis il y avait en plus le moment où mon grand-oncle finalement a décidé de quitter Paris, où il vivait dans les années 40-50 avec cette jeune femme, pour s'installer dans les Vosges, qui était le pays de ses origines, dans ce moulin où nous sommes allés ensuite. Donc tout ça, c'était quelque chose d'assez, oui, romanesque, là encore. Pourquoi je dis encore que c'est un roman ?
Oui. Il faudrait, à ce stade de la conversation, Benoît Dutertre, affiner un peu votre arbre généalogique. Vous avez eu l'occasion de le faire d'ailleurs dans des romans précédents, mais Albert Georges, donc votre grand-oncle, est le frère de Maurice Georges, votre grand-père.
Mon grand-père.
Celui, ouais, qui a épousé la fille de René Coty, le dernier président de la 4e voilà. République. Vous citiez son nom tout à l'heure. C'est dire que vous-même, vous êtes l'arrière-petit-fils de René Coty, un personnage important de l'histoire de France. Comment vous avez vécu vous-même cette ascendance prestigieuse lorsque vous étiez enfant ?
Oh, c'était très présent, parce que moi, vous savez, j'ai grandi au Havre, qui était la ville d'origine de René Coty. Quand je suis né, il était encore vivant. Il est mort pas très longtemps après, mais ma grand-mère, qui était sa fille, lui vouait un véritable culte, et on faisait partie un peu des notabilités locales. La famille du président, c'était pas rien. Alors, comme je suis un des aînés de la famille, j'ai été pas mal baigné là-dedans, d'autant plus que j'étais même né en plus le même jour que mon arrière-grand-père, le 20 mars. Alors, j'ai quelques photos d'anniversaire parues dans les journaux avec lui, etc. Alors, c'était très compliqué, parce que en même temps, ma famille, mes parents notamment, avaient une aspiration, c'est un peu le sujet de mon livre Les Pieds dans l'eau d'ailleurs, une aspiration à la vie normale, à la vie ordinaire. Justement, eux cherchaient plutôt à rompre avec cette espèce de gloire de la famille du président. Donc j'étais mêlé dans toute ma jeunesse entre voilà, cette espèce d'aspiration à une vie toute simple et toute normale de la France moderne, des 30 glorieuses. Et puis en même temps, cette présence de l'illustrayol qui en fait était importante. C'est que moi, j'aimais plutôt, peut-être plus que mes parents d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et alors, ça se rattache donc effectivement à ma vie extraordinaire, parce que donc ma grand-mère avait épousé un médecin vosgien, Maurice Georges, enfin d'origine vosgienne du moins, et c'est donc le frère de mon grand-père, oncle Albert, qui lui, n'ayant pas d'enfant, est retourné s'installer dans les Vosges et a commencé à nous accueillir là-bas pour les vacances. Donc il y avait le côté aventurier qui était celui de l'oncle Albert, qui avait mené une vie vraiment d'aventurier, qui avait... Je disais tout à l'heure, il avait divorcé, il avait voyagé, il avait vécu en Afrique, en Martinique, il avait fait les deux guerres, etc. Lui, c'était l'aventurier. Et son frère, mon grand-père, qui avait épousé la fille Coty, était beaucoup plus entré dans une forme d'honorabilité bourgeoise, d'où tous ces problèmes d'ailleurs à propos du mariage qui ne pouvait pas se faire entre l'oncle Albert et Rosemonde, au moment même où René Coty était président de la République. Alors ma grand-mère voyait ça d'un très très mauvais œil. Il y avait un peu cette figure que beaucoup ont connue, je pense, d'une autre façon. Voilà, c'est pas toujours un oncle, mais enfin du personnage un petit peu aventurier et rebelle au sein d'une famille qui fascine beaucoup les enfants.
Alors, vous aviez une quinzaine d'années, Benoît Dutertre, lorsque votre grand-oncle Albert Georges est décédé. Et cette mort conclut la première partie de votre livre, Ma vie extraordinaire. Est-ce là la fin de ce que vous appelez l'enchantement de l'enfance ?
Bah, c'est la fin, en tout cas, de ce qui a été l'enchantement de toute mon enfance, puisque c'était effectivement les vacances vosgiennes, le moulin, oncle Albert et Rosemont. Donc un jour, ça s'arrête et c'est peut-être là qu'on devient adulte, d'une certaine façon. On s'aperçoit que c'est quelque chose qui n'est pas destiné à durer toujours, qui est éphémère. Ça a été un choc et en même temps, c'est un choc qui correspond au moment où je commence moi-même à sortir, c'est même, j'ai pas 15 ans, j'ai presque 18 ans au moment où il meurt, et à entrer dans l'âge adulte. Donc, d'une certaine façon, j'ai cet héritage merveilleux de ces vacances heureuses. Et en même temps, tout ça disparaît du jour au lendemain, et je vais essayer, peut-être, d'une certaine façon, toute ma vie, de retrouver comme ça des lieux, des êtres qui me permettront de retrouver ce bien-être qui a été celui de mon enfance vosgienne.
Oui, à la mort de
et
votre...
C'est le sujet de la seconde partie du livre, d'une certaine
voilà.
façon. Oui.
À la mort de votre grand-oncle, succède une autre douleur, c'est la perte de ce lieu, de ce vieux moulin qui vous a accueilli pendant tous les étés de votre enfance, puisque ce vieux moulin a été vendu.
Il a été vendu, et même pendant presque 10 ans, d'ailleurs, on n'avait plus de maison là-bas. Après, mes parents ont racheté une maison dans les environs, mais c'était pas le moulin, c'était pas cette maison magique qui était pour moi le plus beau lieu du monde et dont je pouvais pas imaginer à 10 ou 12 ans qu'on ne l'aurait pas toute notre vie. Puis j'ai compris à 17 ans qu'on l'aurait plus. Mais, alors c'est amusant, ça fait effectivement le lien avec cette seconde partie du livre, dont un des premiers chapitres est consacré à l'amour des lieux, justement, qui a été pour moi une espèce de moteur de ma vie. Toute ma vie, j'ai cherché, j'ai habité parfois des maisons enchantées qui étaient jamais à moi, mais où j'étais bienvenu, fort heureusement. Et c'est un peu comme si j'avais recherché des nouveaux moulins un peu partout au fil des ans. Et j'ai consacré effectivement tout un chapitre du livre à cet amour des lieux dont je dis, j'espère encore avec un peu d'ironie, qu'il est pour moi beaucoup plus important que l'amour des êtres. Mais en réalité, l'amour des lieux me permet aussi de parler de certains êtres associés à ces lieux qui ont rythmé ensuite toutes mes années de ma vie d'adulte.
Oui, amour des lieux, génie du lieu aussi. Alors justement, Benoît Duteur, dans la deuxième partie de votre livre, vous relatez la période allant de vos 20 ans à vos 60 ans et les très nombreuses rencontres qui l'ont jalonné sur différents lieux. Et vous commencez par évoquer votre établissement à Paris où vous avez fait les 400 coups, vécu une vie de bâton de chaise, comme on dit chez nous, comme pour finalement oublier que l'enfance et son enchantement étaient derrière vous, peut-être.
Oui, sans doute, oui. Là, je me suis plongé à corps perdu dans ce qui m'apparaissait être comme la modernité, une forme de quête de mouvement, de fête, d'excès, de drogue, de bohème, etc. C'était la recherche de la bohème autant que de la modernité, mais c'était la fin de ces années d'enfance, avec en même temps des réminiscences curieuses, parce que je me rappelle que mon grand-oncle Albert nous racontait souvent, quand on était petit, comment il faisait la bamboche avec notre grand-père à la butte Montmartre, comment ils écoutaient Mistinguette et Bruant, comment même il avait goûté à la coco dans les années 20, etc. Donc il y avait comme ça toujours cette figure du grand-oncle très libre dans sa vie, qui continuait d'une certaine façon à me rassurer sur mes propres excès dans mes années entre guillemets de vie de bâton de chaise. Ouais.
Et donc ces premières années, lorsque vous aviez à peu près 20 ans, ces premières années lorsque vous arrivez à Paris, ont été des années de galère, avec un goût quand même qui s'affirme pour l'écriture d'un côté et la musique de l'autre. Finalement, ce sont les deux pôles de votre activité artistique et de journaliste et d'écrivain.
Oui, ça a toujours été, parce que j'ai étudié la musique jeune, notamment sous l'influence de Rosemont, justement, qui était elle-même une très bonne musicienne, qui avait failli devenir musicienne et qui était heureuse que j'apprenne la musique.
Elle a été une initiatrice pour vous ?
Elle a été vraiment une initiatrice à la musique. Et la musique est devenue pour moi une passion dévorante à l'adolescence. Elle est pour moi indispensable, omniprésente. Et en même temps, j'ai jamais vraiment pensé devenir musicien. J'ai fait des études de musique, mais c'est toujours l'écriture, la littérature qui m'a attiré en tant que vocation personnelle, déjà depuis l'adolescence. Mais toujours dans cette proximité néanmoins de la musique. Ouais.
Oui, donc entre les essais, les romans, les récits, votre bibliographie est particulièrement riche. Mais vous avez aussi publié de très nombreux articles dans des organes de presse, eux-mêmes très divers. J'en cite quelques-uns. Elle, Paris Match, Playboy, s'il vous plaît. La vie catholique et le Figaro littéraire de l'autre côté. Je trouve ça formidable. Ça signe vraiment un éclectisme et votre refus d'appartenir à une chapelle.
Oui, enfin, en l'occurrence, à l'époque où j'écrivais tous ces articles, c'était moins par éclectisme que surtout par le fait que j'acceptais à peu près tout ce qu'on me proposait pour gagner de l'argent. Mais néanmoins, oui, j'avais pas de prévention, je dirais, morale ou puritaine par rapport au fait d'écrire dans tel ou tel titre. Ça m'amusait comme autant d'expériences et je trouve que ça aurait été idiot d'en avoir honte ou de m'en cacher. Mais en plus de ça, oui, j'aurais pu ajouter d'ailleurs le journal La Révolution, qui était un des journaux du Parti communiste français où j'ai fait mes premiers articles. Et où j'ai d'ailleurs conservé quelques très bons amis, en même temps que des journaux encore plus déshabillés que Playboy, si c'est possible. Enfin, j'ai vraiment, oui, j'ai tout essayé dans ce domaine-là, mais aussi, voilà, c'est parce qu'il fallait gagner de l'argent. Et encore, la presse était bien mieux payée à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui pour les jeunes pigistes. Et encore, elle existait, il y avait des possibilités, mais voilà, j'ai un peu tout essayé dans ce domaine. Et en même temps, c'est curieux, j'explique dans ce chapitre que j'ai l'impression qu'il n'en reste pas grand-chose du point de vue du texte. Parce que dans la presse, on écrit toujours pour un journal, pour un format, pour un esprit, pour un lecteur. C'est jamais vraiment tout à fait soi, quoi.
Mais à propos, justement, vous écrivez quelque part, je n'ai jamais eu le sentiment d'être un vrai journaliste s'appliquant à relayer, enquêter, révéler. Je suis un militant plutôt qu'un informateur. Quelle cause défendiez-vous ?
Oui, parce que d'une certaine, bon, je faisais de la presse pour gagner de l'argent, et en même temps, effectivement, moi, l'enquête, tout ça, ça ne m'a jamais intéressé. J'utilisais la presse pour faire partager mes enthousiasmes, notamment, ou mes répulsions, d'une certaine façon. C'est vrai que depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours adoré faire entendre autour de moi les musiques que je découvrais, les musiques que j'aimais, les compositeurs qui me fascinaient. Et j'ai utilisé la presse pour ça, pour défendre des courants, des personnalités, de la musique moderne, etc., et pour les faire mieux connaître, et en même temps pour dénoncer ce qui me semblait être des impostures. J'ai effectivement fait un usage de la presse très militant en ce sens, mais enfin militant pour découvrir des choses. Hein, voilà.
Ouais, vous êtes toujours posé en défenseur de la musique légère, ce que vous appelez le divertissement.
Aussi, oui.
Oui, et c'est d'ailleurs ce que vous défendez dans une émission hebdomadaire sur France Musique, Étonnez-moi, Benoît. D'ailleurs, c'est un titre qui...
Exactement.
Dont il faudrait préciser l'origine.
C'était en fait, Étonnez-moi Benoît, c'est une chanson de Patrick Modiano qui a écrit pas mal de chansons vers 1968. Et il a écrit notamment plusieurs chansons pour Françoise Hardy, dont cette chanson qui s'intitule Étonnez-moi Benoît, qui a des paroles très amusantes d'ailleurs. La chanson est pas aujourd'hui peut-être restée une des plus connues de Françoise Hardy, mais les paroles de ce refrain, Étonnez-moi Benoît, sont restées dans la mémoire, je dirais presque collective, puisque c'est devenu presque une expression. Quand vous appelez Benoît, les gens disent « Ah, étonnez-moi Benoît », sans forcément connaître la chanson. Et donc j'ai repris ce titre. Ça me fait d'autant plus plaisir que Patrick Modiano est lui-même un passionné de musicals et de chansons de cette époque. Et on a eu quelques échanges à l'occasion justement sur les artistes qu'on aime, et il était ravi, je crois, que je reprenne ce titre pour l'émission, qu'il aime bien. Mais voilà, c'était une façon d'étonner le public de France Musique en lui faisant redécouvrir toutes ces vieilles choses du musical et de l'opérette d'avant-guerre à travers un titre plein de nostalgie puisque modianesque. Voilà.
Oui, donc il y a la musique que vous aimez, il y a la musique que vous reniez. Et vous le disiez tout à l'heure, vous le mentionniez, l'œuvre de Pierre Boulez ne fait pas partie de votre top 10, si je puis dire. Vous avez des propos très durs à l'égard de cette école de Pierre Boulez, l'avant-garde.
Mais c'est pas Boulez contre l'opérette, hein, faut être bien clair.
Oui.
Moi, ma passion d'origine, c'est la musique moderne, ce que j'appelle la musique moderne, c'est-à-dire Stravinsky, Bartok, Ravel, Debussy, Martinou, Honegger.
Dont Boulez est l'héritier,
pas, puisqu'on est en Suisse. Dont Boulez s'est dit l'héritier. Moi, j'adore cette grande école moderne. Et Boulez, effectivement, dans les années 50, a, d'une certaine façon, avec son école, c'est pas que lui, hein, confisqué cette modernité en disant qu'ils en étaient les seuls héritiers et qu'ils allaient faire quelque chose d'encore plus moderne et que ça allait être extraordinaire. Et donc, moi, dans mes découvertes, j'ai commencé par être attiré par ça, parce que je me disais, ah, ça, c'est merveilleux. Et puis, j'ai découvert que cette école, très radicale, très dogmatique, très sectaire, par certains coups, n'avait pas produit une musique qui m'enchantait autant que m'avait enchanté la vraie musique moderne. Et j'ai même découvert à ma façon qu'il y avait d'autres courants dans la musique moderne qui avaient beaucoup plus fait bouger les choses et enrichi notre patrimoine musical. Je pense par exemple à Steve Reich que j'évoque dans le livre, ou à Philip Glass, ou à tous ces grands compositeurs américains que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais l'impression qu'il y avait en France une espèce d'imposture en ayant fait une statue de la vraie modernité qui était le seul Boulez, Dieu vivant. Et j'ai beaucoup polémiqué effectivement contre ce que j'appelais cet académisme d'avant-garde.
Et là, vous n'êtes pas fait que des amis. C'est vous qui
non,
citiez
beaucoup d'ennemis violents.
Ouais, vous citiez ce terme tout à l'heure. On vous a traité de néo-réac, enfin de réactionnaire. Et c'est un terme qu'on emploie à tout bout de champ. Hein. De fasciste, carrément.
Ah ouais, bah oui. Si vous n'êtes pas en accord avec la doxa progressiste, vous êtes conservateur, donc réactionnaire, donc fasciste, etc. C'est toute une rhétorique qui existait déjà dans le stalinisme, qui était très bien rodée, hein, mais qui malheureusement est souvent utilisée par les milieux ou certains milieux de l'art contemporain pour jeter l'opprobre sur toute personne qui oserait avoir une vision critique de ce qui est devenu une certaine modernité institutionnelle. Donc ça n'a pas été facile parce que j'ai effectivement ces gens-là comme ça essayé de vous classer comme quelqu'un d'infréquentable qui serait quasiment d'extrême droite parce qu'il se permet de critiquer la musique de Boulez. Heureusement, j'ai eu dans ces combats-là des soutiens de poids comme un Claude Lévi-Strauss ou d'autres comme ça qui savaient parfaitement de quoi on parlait et de quoi je parlais. Mais c'est vrai que ça peut être très très violent. Hein.
Vous avez trouvé l'équivalent sur la scène littéraire. Est-ce qu'en tant qu'écrivain, vous vous êtes aussi fait traiter de réactionnaire?
Alors, notamment à cause de certains romans qui étaient des satires, qui étaient des romans comiques, hein, mais où je me moquais un petit peu. Le problème, c'est que c'est devenu mon sujet, d'une certaine façon. Mon sujet, c'est la modernité telle qu'elle est devenue. Oui. C'est-à-dire une espèce d'ordre du monde, plein de stéréotypes, de ridicules, etc. Et c'est ça que j'attaque. Donc, en attaquant ça, moi, j'ai l'impression d'être un vrai moderne, parce que je critique l'ordre des choses, d'une certaine façon. Mais la modernité, elle-même, préfère me définir comme un réactionnaire. Donc, par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Gaieté parisienne », où je me moque d'un milieu que je connais bien, qui est à l'époque, c'est un livre qui date de 96, hein, du milieu du homosexuel parisien, le Marais, d'où le terme gaieté parisienne, et je me moque de ce qui est en train de devenir une espèce de communautarisme, lui-même plein de stéréotypes, d'interdits, d'obligations, etc., une espèce de style de vie qui me paraît, par certains côtés, au moins permettre une forme de satire. Et alors, il y en a certains qui l'ont mal pris, là encore, parce que j'osais me moquer d'une grande conquête de la modernité. Mais je me moquais pas de la conquête de la modernité en tant que conquête, je me moquais de la conquête de la modernité en ce sens qu'elle était devenue elle-même une forme de conformisme. Et c'est tout le sens de, je dirais, pour employer les grands mots, de mon œuvre. C'est toujours, voilà, oser critiquer la modernité en ce sens qu'elle est devenu un conformisme, un ordre, un dogme, et retrouver, j'espère, le faire, une forme de vrai esprit moderne, c'est-à-dire un esprit critique et insolent qui préside à beaucoup de mes livres.
C'est vrai qu'il y a de la satire dans votre œuvre littéraire, Benoît Dutertre, mais il y a aussi un grand sentiment de nostalgie qui semble vous poursuivre de livre en livre, ce qui ne fait pas de vous un réactionnaire, me semble-t-il.
Oui, alors, mais la nostalgie, qu'est-ce que c'est que la nostalgie, sinon un sentiment poétique? Là aussi, il faut se méfier des confusions, effectivement, d'ailleurs, vous l'avez fort bien dit tout de suite, mais nostalgie n'égale pas réaction ou conservatisme, ce sont des choses très différentes. La nostalgie, c'est une espèce de goût, de présence, du temps passé, de ce qui va disparaître, d'envie de saisir ou de faire revivre des choses qui ont disparu ou qui sont sur le point de nous quitter. Je pense que c'est, me semble-t-il, quand même un des moteurs principaux de la littérature depuis que la littérature existe. S'attacher à ce que des choses qui si fragiles, qui nous ont fait ce qu'on est, ne disparaissent pas tout à fait. Essayer d'en conserver la saveur et la présence à travers ce qu'on écrit. J'ai quand même l'impression que c'est un des moteurs de toute création, non seulement littéraire, mais artistique.
Vous êtes quelque part un homme public, Benoît Dutertre, et pourtant vous êtes très discret quant à votre vie privée. J'ai été très touché dans ce livre par l'hommage que vous rendez, hommage amoureux à celui qui partage votre vie depuis quelque temps.
Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez pudique, je parle peu de moi, mais là il s'agissait d'écrire le roman de ma vie d'une certaine façon, et j'ai voulu raconter. C'était les deux chapitres délicats, hein, parce que je savais qu'on allait pouvoir me titiller avec ça, mais il y avait le chapitre où je parlais de ma carrière littéraire. Alors ah oui, vous avez vu, pour qui il se prend pour un écrivain, oui effectivement je me prends pour un écrivain, et j'essaie d'en parler simplement. Et puis il y avait ma vie amoureuse, donc je parle aussi des questions sexuelles, tout ce que ça soulève comme réflexion au cours d'une vie. Et puis je parle effectivement de la rencontre de l'amour à l'âge de 40 ans.
C'est une vocation tardive chez vous, l'amour.
Voilà, parce qu'avant j'avais une espèce de dédain pour l'amour, j'explique tout ça, et comment ça a changé ma vie, et comment c'est quelque chose à la fois très fort et très terrible, parce qu'on a toujours peur du jour où tout ça va s'arrêter, ne serait-ce que par la disparition de l'un ou de l'autre. Et alors là, curieusement, là, on m'a pas... pas curieusement, tant mieux. J'ai eu le sentiment que ce portrait de Jean-Sébastien, ces réflexions que je me fais, ont été au contraire, là, pour le coup, très... très unanimement bien accueillis, comme si voilà, je donnais quelque chose de... où les gens peut-être se reconnaissaient avec cette forme de...
Oui, vous en parlez avec tendresse et sincérité aussi. C'est peut-être ce qui touche vos lecteurs. Avant de conclure cet entretien, Benoît Dutertre, il faut mentionner le fait que... On a dit quelques mots tout à l'heure en passant. Il faut mentionner le fait que dans ces pages autobiographiques, vous parsemez sous la forme d'un feuilleton en 3 épisodes un récit d'anticipation qui se passe dans la région des Vosges que vous appréciez tant. C'est une manière pour vous d'évacuer la nostalgie finalement, de vous projeter en 2070.
C'est-à-dire que, en fait, dans la première partie du livre qui se passe donc dans mon enfance vosgienne, je raconte la découverte d'un endroit merveilleux, une immense clairière en pleine montagne, et comment à 15 ou 16 ans, c'est vrai, je rêvais un jour de bâtir là une maison, d'acquérir ce grand domaine sauvage et d'y créer un monde à ma mesure. Et je l'ai jamais fait, mais je le fais par le biais d'un personnage de fiction qui est une espèce de double, qui lui va réaliser ce rêve qui était le mien, et en même temps, ce rêve va se heurter à une réalité bien différente, notamment celle d'un monde qui change, et tout ça finit par dans une vision un peu apocalyptique et en même temps fantaisiste des Vosges dans quelques décennies, avec les changements climatiques, les bouleversements sociaux qui se seront produits entre-temps. Donc effectivement, oui, c'est une façon aussi de mettre à distance et puis de rappeler que de finir par la fiction, qui est aussi, même si c'est pas au cœur de ce livre, qui est quelque chose qui m'a toujours attiré, et même l'anticipation.
Ce n'est pas la première fois que vous écrivez un texte d'anticipation. C'est une veine que vous suivez de livre en livre.
Effectivement. Et puis il y a aussi, oui, je disais tout à l'heure dans la troisième partie du livre où j'évoque la vieillesse de ma grand-tante Rosemonde au Havre, il y a aussi une réflexion sur la vieillesse avec cette très vieille dame qui atteint quasiment l'âge de 100 ans, en parallèle avec celle qui est devenue ma grande amie, ce qui nous rattache à la musique légère,
Suzy Delair.
L'actrice Suzy Delair, qui elle va mourir à 102 ans, qui est la jumelle de Rosemonde, et s'en est toutes les deux fin 1917. Et voilà, j'essaie d'évoquer de réfléchir à mille choses à travers la vieillesse de deux dames extraordinaires, elle aussi.
Vous adorez les vieilles dames, on a déjà pu s'en rendre compte dans les livres précédents, Benoît Dutertre. Merci infiniment pour cet entretien. Je rappelle le titre de ce livre, Ma vie extraordinaire. Il a paru chez Gallimard dans la collection Blanche. Et juste pour rire, juste pour donner un peu une idée de votre prose, j'aimerais citer les quelques premiers mots. Regarde-moi ces connards.
C'est bien ça, c'est à propos des motards qui me rendent fou sur les routes de montagne des Vosges. Vous savez, ils en ont fait un parcours, quasiment un parcours sportif, pas très sportif. D'ailleurs, ce sont les moteurs qui font du sport, mais très fatigant. Et là, il y a des razzias quasiment comme des hordes barbares de motards. Et je suis là en voiture avec Jean-Sébastien. Et on est bloqué par des motards en colère qui estiment qu'on porte atteinte à leur dignité en voulant réglementer la circulation. Et la première phrase que je dis effectivement à Jean-Sébastien devant ce bouchon de motards, regarde-moi ces connards. Et après, on entre dans des choses beaucoup plus douces.
Comme quoi, il y a de la nostalgie dans ce livre, mais pas seulement, il y a aussi un peu d'invective. Merci Benoît Dutertre. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.